Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal, bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Nous allons évidemment revenir dès le début de cette édition sur ces massacres dans l'ouest de la Syrie. Près de 1000 civils alaouites tués depuis jeudi. Témoignage poignant dans un instant. Direction l'Arabie Saoudite pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui doit rencontrer tout à l'heure le prince héritier à la veille d'une réunion entre responsables ukrainiens et américains. Le premier contact entre Kiev et Washington depuis l'altercation entre Donald Trump et son homologue. Pas d'expérience politique significative, mais une expertise économique. Le Canada s'apprête à tourner la page Justin Trudeau et c'est Marc Carney qui a été choisi pour lui succéder en plein bras de fer avec les États-Unis. Et puis suite et fin de la visite de Gérald Darmanin au Maroc, le ministre français de la Justice en déplacement dans le Royaume, il rencontre son homologue ce matin, objectif approfondir la coopération judiciaire. Confusion en Syrie, 4 jours après le début des affrontements meurtriers entre fidèles de Bachar al-Assad et nouvelles autorités. Plus de 1400 morts, dont près de 1000 civils alaouites massacrés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le président syrien par intérim, Ahmed al-Sharet, promet de poursuivre les responsables de l'effusion de sang des civils, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. Mohamed Erami, correspondant de RFI en Syrie, a pu s'entretenir avec une mère de famille dont les deux enfants ont été tués.
Elle se demande pourquoi son fils a été tué. Cette femme d'une 60aine d'années, qui a souhaité garder l'anonymat, habite la ville de Banias, située entre les gouvernorats de Latakié et de Tartous. Elle assure que sa famille n'a aucun lien avec la politique et raconte l'assassinat de ses deux fils par les forces de sécurité du nouveau gouvernement syrien.
Oui, mes enfants ont été tués, mais je ne demande pas que l'on tue ceux qui les ont tués, car Dieu existe et c'est lui qui réglera les comptes entre moi et ses assassins. Je n'accepte pas qu'on tue des enfants et des femmes comme ils l'ont fait. C'est un crime inacceptable. Nous sommes dans un pays islamique et ce qui se passe est interdit. Il y a même des familles qui ont dû quitter leur maison et aujourd'hui, ils trouvent difficilement à boire et à manger.
Elle décrit leur isolement total, ils vivent sans électricité et avec très peu de réseau internet depuis 3 jours. Elle affirme qu'il s'agit d'une coupure mise en place volontairement par les nouvelles autorités et appelle le monde à agir.
Toutes les nuits, nous entendons des cris et nous apprenons qu'il y a de nouveaux morts. Nous avons l'impression que nous allons mourir à notre tour. Ma tension artérielle est élevée à cause des massacres dont j'ai été témoin. Les gens meurent alors qu'ils n'ont rien fait de mal et ne sont coupables de rien. Le régime précédent a commis de nombreux crimes et ce gouvernement fait la même chose. Il tue même des hommes âgés.
Après plusieurs jours d'affrontements, le gouvernement syrien a reconnu que des violations individuelles avaient lieu lors de combats dans les villes côtières, promettant de tenir pour responsables tous ceux qui ont commis des exactions contre les civils. Mohamed Erami, Damas. RFI.
Et toujours au Proche-Orient, Israël accentue la pression sur le Hamas alors qu'une délégation israélienne est attendue aujourd'hui à Doha au Qatar pour négocier la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Israël a annoncé hier couper l'approvisionnement en électricité de l'enclave palestinienne, la seule ligne qui alimente notamment la principale usine de dessalement de l'eau. Le tout une semaine après avoir suspendu l'entrée de l'aide humanitaire. Le Qatar, médiateur de premier plan, tout comme l'Arabie Saoudite, le président ukrainien est attendu sur place tout à l'heure pour rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman avant une réunion demain entre responsables ukrainiens et américains, la première depuis la rencontre houleuse entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche et l'annonce du gel de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Alors que sur le front, Moscou progresse pour la première fois depuis 2022. La Russie a revendiqué hier une poussée dans la région de Soumy et la prise de 4 villages dans celle de Koursk. Néanmoins, le président ukrainien se dit confiant, Romain Lemaresquier.
Volodymyr Zelensky sera bien accompagné pour cette première joute avec l'administration Trump. Sa délégation, comme il l'a annoncé ce samedi, sera composée du conseiller de la présidence, Andrei Yermak, du chef de la diplomatie, du ministre de la Défense et du directeur adjoint du cabinet présidentiel, ainsi que de différents hauts gradés de l'armée. Le chef de l'État ukrainien, qui doit rencontrer le prince Mohamed Ben Salman, héritier du trône ce lundi, ne participera pas aux discussions. Ce sont donc ses plus fidèles lieutenants qui seront aux manettes pour tenter d'obtenir des garanties de sécurité sécurité de la part des États-Unis avant un éventuel cessez-le-feu. La position de Kiev est la même que celle de l'Union européenne. Si paix il doit y avoir, cette dernière doit être juste et durable. Après l'épisode de la Maison-Blanche au cours duquel le président ukrainien avait été humilié en public, Volodymyr Zelensky a multiplié les messages de sympathie à l'égard de Washington pour tenter de faire retomber la tension. Ce dimanche, il s'est même excusé, certes sur un ton ironique, de ne pas être en costume lors d'une cérémonie à Kiev, référence faite à l'épisode de la Maison-Blanche. Quant à la délégation américaine qui sera présente pour le début des discussions prévues mardi, elle sera emmenée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui sera accompagné par des responsables diplomatiques et militaires.
Romain Lemaresquier. Une nomination clé au Canada en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Marc Carney, novice en politique mais conscient des enjeux économiques. L'ancien directeur des banques centrales anglaises et canadiennes succède à Justin Trudeau, le premier ministre qui a jeté l'éponge après 10 ans au pouvoir et dès son élection hier à la tête du Parti libéral. Il s'est livré à un discours offensif.
Nous faisons face à la crise la plus importante de notre vie. Nous devrons faire des choses extraordinaires ensemble. Nous devrons construire des choses que nous n'avions jamais imaginées à un rythme que nous n'aurions jamais cru possible. Et surtout, nous devons mettre les gens avant l'argent. Il faut s'unir pour bâtir le pays le plus fort, le plus juste et le plus libre du monde.
Marc Carney, le futur Premier ministre canadien. Il est 9h06 à Rabat avec ce nouveau signe du réchauffement des relations entre la France et le Maroc. Après la ministre de la Culture française, Rachida Dati, le président du Sénat, Gérard Larcher, Gérald Darmanin, le ministre français de la Justice, est en visite au Maroc. Objectif, approfondir la coopération judiciaire entre les deux pays qu'il a loué hier dans une interview à la chaîne marocaine semi-publique 2M. Pour ça, il rencontre ce matin son homologue Abdelatif Wahbi, les précisions pour RFI de François Humfer Kataji.
Au micro de la journaliste Irsan Benbel, le ministre français a salué, je cite, le partenariat renforcé renouvelé entre les deux pays et a affirmé sa volonté d'œuvrer pour améliorer la coopération judiciaire dans le domaine de la lutte contre le narcotrafic et le terrorisme.
Elle est excellente cette coopération, je l'ai vécu comme 4 ans et demi ministre de l'Intérieur et puis désormais comme ministre de la Justice. Le travail exceptionnel que fait le Maroc dans ses informations, dans ses renseignements, dans la lutte aussi contre la radicalisation, nous donne énormément d'informations. Et surtout, nous arrivons à travailler ensemble pour éviter des attentats qui toucheraient le Maroc, qui toucheraient la France. Plus nous nous parlons, plus nous évitons des drames pour chacun de nos pays.
Au sujet du narcotrafic, les discussions porteront notamment sur les confiscations, une sanction judiciaire qui consiste en un transfert de propriété d'un bien saisi à l'État.
Et ce sont des maisons, ce sont des appartements, ce sont des voitures, et il faut évidemment, ce sont parfois la crypto-monnaie, il faut pouvoir saisir ce que font très bien les services marocains, et puis il faut confisquer. Et là, nous avons encore entre nous une petite difficulté. Nous saisissons beaucoup dans les affaires judiciaires. On confisque assez peu de chaque côté de la Méditerranée. Alors, il faut absolument qu'on améliore ça.
Le garde des Sceaux français a également annoncé son intention d'améliorer la coopération de droit civil, mariage, héritage ou divorce, par exemple. François Humfer Kataji, Casablanca, RFI.
Et si la relation France-Maroc se renforce, celle entre Paris et Alger s'enlise et la sortie de Jean-Michel Apathy, journaliste et éditorialiste français sur la première radio privée de France, ne risque pas d'apaiser les tensions. Suspendu pour avoir dénoncé des hauts radours sur glane en Algérie, il a finalement décidé de ne pas revenir à l'antenne, estimant ne pas avoir commis de faute. Marie Casadebé.
Ce matin-là, le journaliste se retrouve face à Florence Portelli, la vice-présidente de la région Île-de-France, pour débattre notamment des relations entre Paris et Alger. Pour Jean-Michel Apathy, elles ne pourront jamais être apaisées tant que la France ne reconnaîtra pas ses crimes en Algérie. Et le journaliste de préciser sa pensée.
Vous savez, chaque année en France, on commémore au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre.
Vous comparez ça ?
Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ?
Jean-Michel, on n'a pas fait au Radour-sur-Glane en Algérie.
Vous
connaissez les détails de la conquête en Algérie ?
Au Radour-sur-Glane, 642 villageois assassinés par des militaires nazis en juin 44, on entend l'indignation de Florence Portelli. Sur son compte X, l'élu de droite accuse son détracteur de faire le jeu de la propagande algérienne. Les critiques viennent ensuite de l'extrême droite. Dès le lendemain, la chaîne annonce le retrait temporaire du journaliste, parlant de comparaison inappropriée. Mais Jean-Michel Apathy précise ce dimanche qu'il ne reviendra pas sur RTL. Il refuse de reconnaître une une faute. L'éditorialiste redit être horrifié par les récits historiques de la colonisation de l'Algérie. Après plusieurs signalements, l'ARCOM, le gendarme des médias, a ouvert une instruction.
Il est 9h10 en temps universel. Tout de suite, vous retrouvez Caroline Paré avec Priorité Santé sur RFI.